14h à Paris, 9h à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi.
Clotilde Dumais.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain. Haïti risque de perdre toute une génération à cause de la persistance de la violence des gangs. C'est ce que redoute l'ONG Plan International. On va en parler dans quelques minutes en direct avec Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. À l'avenir judiciaire de Jair Bolsonaro entre les mains de la Cour suprême brésilienne, l'ancien président risque un procès pour un projet présumé de coup d'État, alors que son successeur Lula fait lui face à une grosse baisse de sa popularité.
C'est la faute des impôts. Nous payons trop de taxes, donc les prix montent et c'est notre porte-monnaie qui est atteint, alors que le salaire minimum n'augmente pas dans la même proportion.
Le reportage à suivre de la correspondante de RFI à Rio et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Edwige Saint-Thomas. En Guadeloupe, 4 personnes comparaissent pour exploitation et travail dissimulé.
Bonjour Clotilde. Oui, parmi eux, 2 Cubains et 1 Dominicain. 6 personnes auraient été exploitées en 2023. Les délits vont de la traite d'êtres humains au travail dissimulé en passant par l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France.
On en parle donc tout à l'heure avec vous Edwige. Mais d'abord le journal international. Bonjour Alban Leprince.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
792, c'est le nombre de personnes tuées depuis la reprise des bombardements à Gaza il y a une semaine.
Un bilan communiqué ce midi par le ministère de la Santé du Hamas, alors que de nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 23 morts ce matin dans l'enclave palestinienne et que l'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation dans l'enclave. Hier, 2 journalistes ont été tués dans des frappes. Conséquence, le syndicat des journalistes palestiniens monte au créneau. Il appelle à protéger les professionnels et la liberté de la presse dans le territoire. Les explications à Jérusalem pour RFI de Sami Bourlifa.
Houssam Shabat était correspondant d'Al Jazeera. Il a été ciblé sur le terrain dans le nord de Gaza. Une frappe de drone contre sa voiture, revendiquée ce mardi par l'armée israélienne qui l'accuse d'être un tireur d'élite du Hamas. Sami Abou Salem, du syndicat des journalistes palestiniens, est au micro de Rami El-Merari à Gaza.
C'est une guerre menée méthodiquement contre la presse. Les attaques contre les journalistes ne sont pas des attaques isolées. Un missile s'est abattu sur la voiture de Houssam Shabat. 4 autres personnes qui se trouvaient à proximité ont également été tués. Si ça avait été un tir de mortier, on aurait pu se dire « c'est un tir accidentel ». Mais là, c'est un missile précis qui l'a atteint.
Israël interdit à la presse étrangère d'accéder à la bande de Gaza. Les journalistes locaux sont seuls en première ligne, explique Sami Abou Salem.
Le journaliste fait son travail au péril de sa vie. Votre casque et votre gilet pare-balles ne vous protègent plus. Les tenues siglées presse sont devenues des aimants à missiles. Israël piétine toutes les lois internationales. Protégez-nous.
Un appel à la communauté internationale. Depuis le début de la guerre à Gaza, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués, près de 400 blessés, 51 sont détenus par Israël, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Et aujourd'hui, le président israélien Isaac Herzog s'est dit dans une vidéo publiée par son bureau choqué de constater que la question des otages retenus à Gaza n'était plus l'une des priorités du pays et appelle à poursuivre les efforts en vue de les ramener à la maison jusqu'au dernier.
C'est l'une des plus grosses bourdes de l'histoire militaire des États-Unis.
La Maison-Blanche confirme qu'un journaliste américain, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a été inclus par erreur dans un groupe de discussion ultra confidentiel et qu'il a pu avoir accès à des plans militaires sur les raids menés il y a 10 jours contre les rebelles houthis du Yémen, tout en précisant qu'aucune information classée secret défense n'a été partagée. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour. Eh bien oui, cette affaire tient plus à une erreur humaine, selon la Maison-Blanche, qu'à un défaut de sécurité intrinsèque à l'application Signal. Concrètement, pour se connecter à un groupe de discussion sur la messagerie cryptée, vous devez au préalable recevoir une invitation éphémère, souvent par SMS. Cette invitation génère un code à 4 chiffres de manière aléatoire qui doit correspondre au nombre que possède de son côté le responsable du groupe de discussion. Et une fois connecté, eh bien, la confidentialité des échanges chiffrés de bout en bout est garantie aux utilisateurs. Le rédacteur en chef du magazine The Atlantic indique qu'il n'est pas rare que des hauts responsables américains communiquent sur Signal pour planifier par exemple des réunions. En revanche, pour discuter des activités militaires, ils sont tenus de se rendre dans une installation d'information compartimentée sensible. La plupart d'entre eux disposent à leur domicile de ce système. Les démocrates au Sénat américain exigent en revanche une enquête complète, ajoutant que la sécurité nationale est entre les mains de parfaits amateurs.
Merci Dominique Dezonnet.
Volodymyr Zelensky reçu demain soir à l'Élysée par Emmanuel Macron.
Les deux chefs d'État prépareront ensemble le sommet prévu jeudi à Paris entre les pays de la coalition des volontaires, c'est-à-dire prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, alors que la réunion ukraino-américaine s'est achevée ce matin à Riyad en Arabie Saoudite et que les pourparlers entre États-Unis et Russie n'ont pas abouti à l'annonce d'une trêve hier malgré 12 heures de négociations. Néanmoins, la Russie a réclamé à la mi-journée un ordre de Washington à l'Ukraine pour parvenir à un accord sur la navigation commerciale en mer Noire. Moscou qui a aussi demandé une levée des restrictions sur le commerce des céréales et engrais russes.
Les Iraniens célèbrent les 13 premiers jours du calendrier perse.
Oui, et les Kurdes, eux, fêtent depuis le 20 mars l'arrivée du printemps selon leur propre tradition. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Résultat, au moins 45 personnes ont été arrêtées par les autorités. C'est un bilan dressé par l'ONG Engao.
Oui, pour le peuple kurde, Nowruz est aussi en effet un symbole de résistance et de liberté, des célébrations réprimées par le régime iranien, comme le rapporte Aoyar Sheri de l'ONG Engao.
Depuis un mois, les forces de sécurité iraniennes convoquent des activistes kurdes pour interdire les célébrations de Nowruz dans les villes kurdes. Les menaces continuent pour les festivités à venir. Au Kurdistan, Nowruz, c'est aussi un acte de résistance et les gens se sont tout de même rassemblés avec des symboles kurdes en chantant des slogans anti-régime. Il y a eu 45 arrestations, dont 6 enfants et 4 femmes, et 2000 personnes ont été convoquées par les autorités iraniennes.
La population kurde iranienne est particulièrement opprimée depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, parti de cette région après la mort de la jeune kurde Jina Mahsa Amini. Ce mouvement a uni des revendications de tous les Iraniens. Cette union a survécu à la répression, selon Aoyar Sheri.
C'est devenu normal que les Baloutches ou les Arabes soutiennent les Kurdes. Dans la prison d'Evin, les prisonniers politiques de différentes ethnies chantent ensemble contre la condamnation à mort de deux activistes politiques kurdes. C'est quelque chose qui arrivait rarement avant. Il y a une connexion très forte entre les différentes communautés d'Iran et ça, c'est inébranlable.
Depuis le début de l'année, plus de 220 personnes ont été exécutées en Iran, selon l'ONG Iran Human Rights.
Oriane Verdier.
En France, le 101e département, Mayotte, à nouveau à la une de l'actualité.
Les sénateurs se penchent cet après-midi sur une proposition de loi des Républicains adoptée en février. Proposition qui incluait un amendement du Rassemblement national qui fixait à 3 ans la durée de résidence de 2 parents pour qu'un enfant né à Mayotte bénéficie du droit du sol. Disposition jugée inconstitutionnelle, y compris par le rapporteur du texte, l'élu LR Philippe Gosselin, Aurélien de Vernois.
Ils ont voté n'importe quoi à l'Assemblée nationale, il fallait que l'on remette les pendules à l'heure, s'emporte le patron du groupe macroniste au Sénat, François Patria. Depuis un mois et demi, l'embarras était en effet manifeste dans les rangs de l'alliance gouvernementale. Les conditions de modification du droit du sol à Mayotte adoptées par les députés promettaient, de l'avis de tous, une censure du Conseil constitutionnel. Il fallait donc sauver le texte soutenu par le gouvernement. En commission des lois, les sénateurs sont ainsi revenus à la version initiale fixant à 1 an de résidence légale l'un des 2 parents. Ce qui n'empêchera pas les sénateurs de gauche de tenter de faire supprimer la disposition, explique Mélanie Vogel, qui suit le texte pour le compte des écologistes. Légiférer est inutile car le nombre de cas est extrêmement réduit, rappelle-t-elle. Ça ne changera pas la situation à Mayotte, admet également François Patria, même si son groupe votera lui le texte, mais sans enthousiasme. Un choix surtout dicté par la solidarité gouvernementale entre le camp présidentiel et les Républicains, et par la volonté de ne pas paraître laxiste dans ce dossier dont s'est emparée l'extrême droite.
Explication d'Aurélien de Vernois.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince, merci beaucoup.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on prend tout de suite la direction des États-Unis, puisque c'est une affaire qui commence à faire du bruit. On en parlait à l'instant dans le journal, une faille de sécurité concernant des plans d'attaque contre les Houthis au Yémen. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
C'est une affaire qui est largement évoquée dans la presse.
Oui, exactement. Certains médias comme le New York Times, par exemple, demandent ce matin la démission du secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Je ne sais pas comment Pete Hegseth peut regarder les militaires dans les yeux. Il vient de perdre sa crédibilité en tant que chef militaire. écrit le journal. Selon les informations du journaliste Jeffrey Goldberg, directeur du magazine The Atlantic, qui a été ajouté par inadvertance à un groupe restreint du gouvernement sous la messagerie Signal pour discuter des frappes militaires contre les Houthis, c'est Pete Hegseth lui-même qui précisait les détails de l'opération, ce que le secrétaire à la Défense nie cependant.
Nobody was texting war plans.
Voilà, personne n'a publié des messages avec des plans de guerre, selon Pete Hegseth.
Et c'est faux, répond le journaliste Jeffrey Goldberg, qui était hier soir sur la chaîne CNN.
Non, c'est un mensonge. Il envoyait des messages sur des plans de guerre. Il envoyait des messages sur des plans d'attaque, c'est-à-dire quand les cibles allaient être visées, comment elles allaient être attaquées, qui se trouvait sur les cibles et quand la prochaine série d'attaques allait avoir lieu. Alors je n'ai pas publié cela et je continue à ne pas le publier car cela me semble trop confidentiel, trop technique. Et honnêtement, j'ai peur que partager ce genre d'informations en public puisse mettre en danger des membres de l'armée américaine.
Military personnel.
En tout cas, pour le New York Times, Pete Hegseth donne l'exemple de quelqu'un qui est négligent. Et quand on est négligent dans l'armée, des gens peuvent mourir, souligne le journal. Avant de conclure, s'il avait un peu d'honneur, il démissionnerait.
Mais est-ce que c'est un scénario justement crédible ?
Eh bien, pas vraiment, en tout cas selon USA Today, Clotilde, car il y a un problème selon le journal. Hein, l'administration Trump ne sera jamais à la hauteur des normes qu'elle impose aux autres. Elle dit apprécier la loi et l'ordre tout en graciant les personnes qui ont attaqué le Capitole. Elle promet de faire baisser les prix tout en imposant les droits de douane qui augmentent les coûts et ainsi de suite. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'un responsable politique dans l'entourage de Donald Trump soit sanctionné dans cette affaire, écrit USA Today. L'administration Trump, on l'a vu, préfère s'en prendre aux journalistes qui rapportent des faits. Ce sont eux les vrais méchants aux yeux de Donald Trump et de ses proches.
Et on va continuer à déplucher la presse sur le continent américain avec vous, Harim Lipold. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité haïtienne.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et comme chaque mardi, on retrouve Godson Pierre. Bonjour Godson.
Bonjour Clotilde.
Directeur de l'agence Alter Press. Haïti risque de perdre toute une génération à cause de la persistance de la violence des gangs. Ça, c'est l'alerte lancée par l'ONG Plan International, puisque les enfants sont particulièrement visés, selon elle, par cette violence.
Eh bien, Prosperi Raymond, directeur du plan international Haïti, fait savoir qu'en plus de la violence sécuritaire et physique, les enfants souffrent de la faim, de la violence psychique et de différents autres types de violences. Ils vivent dans la peur et réagissent en fonction des réalités violentes auxquelles ils sont exposés, poursuit-il, et devenus adultes, ils pourraient traîner les séquelles de ces traumatismes. Il insiste sur les violences sexuelles à grande échelle contre les enfants, l'effondrement du système éducatif et des risques croissants d'exploitation de la traite des enfants également, surtout en ces périodes de déplacement massif.
Effectivement, hein, le plan international qui estime que les enfants sont aussi exposés, Godson, au risque d'être recrutés par des groupes armés.
Des enfants âgés d'à peine 10 ans, précise l'organisme, ce qui constitue une grave violation du droit international. Et selon une enquête, 5% des enfants déplacés à l'intérieur du pays ont exprimé leur intention de retourner à Port-au-Prince pour rejoindre ces groupes criminels, considérant qu'il s'agirait d'un moyen de réaliser des gains financiers faciles.
Alors où en est la situation sur place à Port-au-Prince, Godson, et aux alentours? Alter Press a signalé hier de nouvelles attaques armées à Delmas.
Et oui, la terreur et la peur font désormais partie du quotidien des habitants de la capitale. Même si on peut noter un répit à certains moments, eh bien une poussée de la violence des gangs n'est jamais à écarter. Comme à Delma hier, eh bien des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur deux camionnettes, faisant une vingtaine de blessés selon les derniers chiffres obtenus. Un chauffeur aurait été tué sur place à Delma 31.
Et pendant ce temps, la population de son côté est appelée à poursuivre la mobilisation pour demander aux autorités toujours d'agir face à cette violence.
Et ainsi, des organisations de la société civile et des structures politiques saluent les récentes initiatives de mobilisation et protestation à la capitale, Port-au-Prince, contre le climat de terreur instauré par les groupes armés. Alermi Pierre Villus de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains plaide ainsi pour un front commun entre les différents acteurs, différentes actrices de la vie nationale. Il les invite à se joindre à cette mobilisation pour pousser l'État à assurer correctement sa mission.
Merci beaucoup, Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press, pour ce point sur l'actualité haïtienne.
RFI, as vozes do mundo.
Lula face à une chute inédite de sa popularité au Brésil. Seulement un quart de la population approuve son gouvernement, alors que le président brésilien en est à la moitié de son mandat. Certains indicateurs, comme le faible taux de chômage ou le PIB en hausse, sont pourtant plutôt positifs. Et puis son prédécesseur, Jair Bolsonaro, risque lui un procès pour un projet présumé de coup d'État. On va y revenir juste après. Alors d'abord, comment expliquer ce désamour vis-à-vis de Lula ? C'est un dossier de la correspondante de RFI à Rio de Janeiro, Sara Cozzolino.
À la sortie de cette enseigne de discount, les caddies ne sont qu'à moitié remplis.
Aujourd'hui, on ne fait les courses qu'une fois par mois et on ne peut pas se permettre d'y retourner. Ce qu'on achète doit nous durer jusqu'à la fin du mois.
Shirley Santos et son mari ont la cinquantaine. Ils affirment avoir perdu du pouvoir d'achat ces derniers mois.
On fait partie de la classe moyenne, donc on était habitué à manger de bons morceaux de viande en payant un peu moins de 10 euros le kilo. Mais aujourd'hui, les prix ont doublé, donc on doit faire d'autres choix pour pouvoir continuer à manger de la viande.
Permettre à tous les Brésiliens de faire des barbecues de picanha, cette découpe noble de viande de bœuf, était l'une des promesses de campagne de Lula en 2022. Un engagement symbolique pour rendre ce petit luxe plus accessible aux Brésiliens. Mais 2 ans après son élection, tous les prix ont augmenté. Huile d'olive, café, poulet, œufs, une inflation dont le gouvernement est responsable, selon Shirley.
C'est la faute des impôts. Nous payons trop de taxes, donc les prix montent et c'est notre porte-monnaie qui est atteint, alors que le salaire minimum n'augmente pas dans la même proportion.
Contrairement à ses 2 premiers mandats, en 2003 et 2010, Lula doit aujourd'hui gouverner avec un congrès de centre-droit et ne semble plus donner la même importance aux questions sociales. Daniela Neves est docteur en sciences politiques à l'Université fédérale du Paraná.
Pendant ces 2 premières années de gouvernement Lula, la priorité a été donnée au marché. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur des questions d'ajustement fiscal, de contrôle, des dépenses. Ces questions économiques ont pris le pas sur les questions sociales. En conséquence, certains secteurs qui le soutenaient, comme la classe moyenne, les syndicats ou les universitaires, se sentent aujourd'hui abandonnés.
Sur les marches de l'Institut de philosophie et sciences sociales de l'Université fédérale de Rio, les étudiants s'avouent aussi déçus par Lula. Breno Santos est étudiant en master de philosophie.
On n'avait déjà pas beaucoup d'espoir, mais il a fait encore pire, parce qu'il a essayé de faire de la conciliation, comme à son habitude. Sauf que l'on sortait d'une période dominée par l'extrême droite. Donc on espérait une réponse un peu plus radicale.
Breno regrette aussi la mauvaise communication du gouvernement qui se cantonne à répondre aux attaques de l'extrême droite de l'ancien président Jair Bolsonaro. À ses côtés, Felipe Benevides a l'impression que la polarisation a augmenté ces dernières années.
Il y a 10 ans, quand on discutait avec des personnes qui étaient plus conservatrices ou même bolsonaristes, on pouvait débattre et même se disputer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne s'assoit même plus à la table des bolsonaristes comme avant. On n'aborde même plus le sujet.
Dimanche 16 mars, 18 000 personnes ont défilé le long de la plage de Copacabana en soutien à l'ancien président Jair Bolsonaro. Venu de l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro en bus, Sergio Galvão, militaire à la retraite, ne cache pas son émotion.
Il mobilise les foules, tout le monde croit en la force de cet homme. Il a presque été tué, il a été victime d'un attentat. Ce n'est pas un hasard, il dérange le système et c'est quelqu'un qui parle la langue du peuple.
Même si les chiffres officiels étaient plus faibles que ceux espérés par l'extrême droite, son camp est loin d'être affaibli, selon Ana Teresa Duarte. Elle est doctorante en sciences politiques à l'Université fédérale de Pernambouco.
Il ne fait aucun doute que Jair Bolsonaro domine en
encore le discours de la droite et de l'extrême droite au Brésil. Sa base est très active, notamment sur les réseaux sociaux, où il mène le débat et arrive à faire pression sur le gouvernement Lula. Le sous-estimer est un grand risque.
Ce 25 mars, la Cour suprême décidera de l'ouverture ou non d'un procès contre Jair Bolsonaro pour projet présumé de coup d'État. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et justement, Arim, cette décision attendue de la Cour suprême est à la une de la presse brésilienne.
Exactement, et le parquet accuse Jair Bolsonaro d'avoir été le leader d'une organisation criminelle qui aurait conspiré de longue date pour empêcher le retour au pouvoir du président actuel de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. L'ancien chef de l'État encourt une peine qui pourrait dépasser les 40 ans de prison. D'après Folha de São Paulo, il n'existe aucun précédent dans l'histoire du Brésil pour un tel procès pour complot contre la démocratie. La loi qui le permet est récente. Elle a été adoptée par le Congrès il y a 3 ans et demi, ironiquement. Clotilde, sous la présidence de Jair Bolsonaro. La mise en place de cette législation témoigne de la force du régime démocratique au Brésil, souligne Folha de São Paulo. Le journal est en faveur des poursuites pénales contre l'ancien président d'extrême droite.
RFI, la radio del mundo.
Et puis, cette nouvelle menace commerciale de Donald Trump, le président américain, qui veut imposer des droits de douane de 25% contre les pays qui achètent du gaz ou du pétrole vénézuélien. Et l'un des plus gros clients en la matière, eh bien, c'est la Chine, Pékin, qui dénonce les interférences de Washington. Autre illustration du bras de fer entre les Américains et Caracas, le renvoi de migrants vénézuéliens depuis les États-Unis. Un avion a atterri à l'aéroport de Caracas hier avec 199 personnes à bord. Ils sont donc désormais plus de 1000 à avoir été rapatriés dans leur pays. Des criminels pour Donald Trump, d'honnêtes travailleurs, selon Nicolas Maduro. Alors, qui sont-ils exactement ? Élément de réponse avec Alice Campagnol.
Depuis février et la reprise des vols d'expulsion, 1119 migrants ont atterri à l'aéroport de Caracas depuis les États-Unis. Et il y a quelques jours, plus de 200 Vénézuéliens ont été transférés et incarcérés au Salvador car ils appartiendraient, selon Washington, au gang Tren de Aragua. Pourtant, depuis plusieurs jours, leurs familles, qui les ont reconnus sur des vidéos publiées par le président salvadorien Bukele, prennent la parole sur les réseaux sociaux pour les défendre.
Ce jeune homme que vous voyez, il s'appelle Francisco Javier García Cacique. Il est vénézuélien et il est barbier. Il a toujours travaillé comme barbier depuis qu'il a quitté le pays. Il n'a pas de casier judiciaire. J'aimerais qu'on ne nous mette pas tous dans le même sac en disant que nous sommes des membres du gang. Nous sommes là pour la voix de tous ceux qui sont détenus.
Dans un discours sur le tarmac hier, le ministre de l'Intérieur vénézuélien a affirmé que pas un seul de ses concitoyens de retour n'appartiendrait à une organisation criminelle. Pourtant, Donald Trump justifie les expulsions du fait de la dangerosité de ces migrants. Deux discours très différents, impossibles à vérifier, car ni Washington ni Caracas n'ont révélé les identités des expulsés. Et arrivés au Venezuela, tous restent muets. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et puis la fuite, cette fois-ci, de la communauté LGBTQ+, américaine, qui trouve à Rime, dans le Canada, finalement, un nouveau refuge.
Et c'est un reportage à lire dans le journal québécois Le Devoir. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, de plus en plus de familles LGBTQ+, tentent de s'installer de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Les avocats canadiens spécialisés en immigration observent une explosion des demandes, avec des clients désormais prêts à déménager très rapidement. L'inquiétude des familles LGBTQ+ s'explique par le climat politique de plus en plus hostile à leur égard aux États-Unis, y compris dans des États traditionnellement progressistes comme par exemple la Californie, selon Le Devoir. Le Canada, écrit le journal, est de plus en plus perçu comme un sanctuaire où ces familles espèrent retrouver un sentiment de liberté et de sécurité.
Arim Lipold pour la revue de presse aujourd'hui. Merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec Edwige Saint-Thomas. Edwige, 4 hommes comparaissent en Guadeloupe dans une affaire de traite d'êtres humains.
Mais ils sont accusés d'avoir exploité 6 personnes en 2023. Ils les auraient notamment forcés à travailler pendant plusieurs mois sans aucune rémunération en contrepartie. Peggy Robert, Guadeloupe la Première.
Ils ont tous les 4 entre 33 et 36 ans. 2 sont cubains,
Un est d'origine dominicaine et le dernier d'origine française. Ils sont tous les quatre poursuivis pour de nombreuses infractions commises entre février et novembre 2023 aux Abîmes et à Bemao. Les délits vont de la traite d'êtres humains au travail dissimulé, en passant par l'aide à l'entrée, l'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. En phase 2, 6 victimes, 4 femmes et 2 hommes. Les 4 prévenus, dont 2 sont restaurateurs, sont soupçonnés d'avoir exploité ces 6 victimes. Ils les auraient fait venir de Cuba et de République dominicaine. Ils auraient payé leurs billets de transport et en contrepartie, ils les contraignaient à construire un restaurant sans les payer et sans les déclarer, dans des conditions qui s'apparentaient à de l'esclavage moderne. Un troisième homme faisait office de chauffeur et un quatrième s'occupait de faire rentrer ces personnes illégalement en Guadeloupe. La justice les poursuit également pour avoir hébergé les 6 victimes, considérées comme vulnérables ou dépendantes, dans des conditions indignes.
Peggy Robert, toujours pas de retour à la normale au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, 5 jours après une grosse panne informatique. Des pièces sont encore attendues pour achever la rénovation des installations techniques. Face à cette situation, le plan blanc a été déclenché. Ce dispositif d'urgence permet une réorganisation rapide des services pour pouvoir assurer les soins urgents et les hospitaliers. En attendant, les interventions et examens non essentiels restent suspendus. Le CHU appelle la population à ne venir aux urgences qu'en cas de nécessité absolue. La journée d'hier a marqué un triste anniversaire. Le 24 mars 2001, le vol Air Caraïbes-Orléans Saint-Martin-Saint-Barth s'écrasait peu avant l'atterrissage, faisant 20 morts. L'enquête avait conclu à une erreur de l'équipage. La compagnie avait été condamnée en première instance, puis en appel. Il s'agit du troisième accident aérien le plus meurtrier dans la région. Et puis, la terre a encore tremblé en Martinique la nuit dernière. Un séisme de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter. Le dernier d'une longue série. L'activité sismique est légèrement en hausse, reconnaît Jérôme Vergne, directeur de l'Observatoire de vulcanologie et de sismologie en Martinique. Mais selon lui, ces tremblements de terre n'ont rien d'inquiétant.
On a eu la semaine dernière ce qu'on appelle un essaim de séismes volcanotectoniques, on va dire sous les dômes de la montagne Pelée, avec environ 200 tout petits événements sismiques en quelques jours. Un peu plus clairement que l'activité habituelle. C'est pas une activité qui suscite de l'inquiétude. On continue à regarder ce phénomène-là. Tant qu'on reste sur des événements qui sont de magnitude très faible, on est toujours dans cette petite phase de réactivation qu'on avait observée ces dernières années. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à ce stade-là.
Des propos recueillis par Martinique La Première. Excellente journée.
Merci beaucoup Edwige, il est presque 13h30 en temps universel et on arrive donc à la fin de ce RFI Midi. On se quitte avec un peu de musique. Call me a coward, I am. Musicien anglais Alabaster de Plume avec son morceau Is It Enough. Il sera en concert ce soir à Los Angeles. I'm making an album and you're listening to it. I'm putting my heart and soul into my album. It's the culmination of a lifetime's creative work. Is it enough? Master de Plume, Is It Enough sur RFI. J'en profite pour remercier Vincent Biteau qui était à la réalisation aujourd'hui. Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Dans un instant sur RFI, c'est de vive voix avec Pascal Paradou. Quant à moi, je vous dis à demain. Bonne journée sur RFI. Is it enough?
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.